Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Éric Micou, bonjour.
Salut Alain.
Merci d'avoir répondu à l'invitation de 48. Éric Micou, vous êtes actuellement consultant basket pour beIN Sports. Avant ça, vous avez eu une longue carrière de joueur. Georgetown, Besançon, Lyon, Strasbourg, Cholet, Paris, Dijon, Livourne et Évreux. 20 sélections d'équipe de France. Est-ce que j'en ai oublié un ou pas?
Ouais, Saint-Vallier. J'ai commencé à,
Saint-Vallier
dans la Drôme. Mais non, après, on est bon. 20 sélections d'équipe de France, ouais. C'est ça, je crois que c'est
je crois que c'est source Wikipédia. Je...
Ouais, non, mais ils sont plutôt justes là-dessus.
Alors, Éric Micou, si je vous dis service militaire ou Allen Iverson, lequel des deux vous agace le plus?
Aucun des deux, en fait, parce que Allen Iverson, finalement, je me dis que c'est un peu grâce à moi qu'il a pu exploser, faire une vraie carrière en NBA. Et puis, le service militaire, c'était sympa. J'en garde des super souvenirs, même si... c'était un peu obligatoire, donc d'où voilà mon obligé de le faire et obligé de revenir en France et de laisser ma bourse à Iverson.
Alors, je resitue quand même ma question pour ceux qui n'ont pas suivi. Vous avez joué 2 ans pour la fac de Georgetown. Vous rentrez en France pour le service militaire et à votre retour, Allen Iverson a piqué votre place, grosso modo. Alors, en tout cas, il est arrivé à Georgetown et vous savez que vous n'allez pas avoir beaucoup de temps de jeu en revenant. C'est ouais. Ça, votre bourse, officiellement, elle est toujours là, en fait.
Elle est toujours là parce qu'il y avait un quota, un nombre maximum de bourses que chaque université pouvait donner chaque année. Moi, j'avais le souci de... j'avais le service militaire qui m'appelait, il fallait que je le fasse, je pouvais pas repousser chaque année. Mais surtout, aussi, sur ma deuxième année, je joue beaucoup moins. Je suis plus un joueur majeur, en tout cas mes minutes, je passe d'une vingtaine de minutes à 5-6 minutes par match. Donc je me suis posé la question, est-ce que c'est pas maintenant le bon moment pour faire le service militaire? Georgetown qui m'assurait en plus de pouvoir récupérer ma bourse l'année suivante une fois que le service militaire serait fait. Et puis ça tombait bien parce que ce fameux été où j'ai pris ma décision, ma bourse, si je la libérais, permettait à Allen Iverson de signer.
Même pas un petit mot de remerciement dans son speech de MVP en 2001?
Non, même pas. Même j'ai regardé le discours d'intronisation au Hall of Fame.
Rien du tout,
il a parlé d'Yaya Dia, de Boubacar Ao, des joueurs qui étaient là avec lui. Et puis Yaya Dia, c'était mon pote. Et bon, je pensais qu'Allen Iverson allait me remercier, mais non.
Un peu ingrat, quoi.
Ouais, mais c'est... Ils ne savent pas dire merci. Mais bon, il a fait une belle carrière derrière. Et bon, tant mieux pour lui.
Vous n'aviez aucun moyen d'être réformé pour le service militaire?
J'ai tout essayé.
D'accord.
Ouais, avec le piston. Et puis finalement, j'ai commencé mon service militaire au bataillon de Joinville. Et après, à l'époque, j'avais un contrat professionnel avec la Croix-Lyon, Jet Service. Et ils ont fait le forcing pour que je ne reste pas au bataillon de Joinville, mais que je puisse être intégré dans une caserne sur Lyon qui me permettrait de tous les jours d'être libéré et de pouvoir m'entraîner avec mon club. Donc finalement, j'étais au service militaire. J'étais là pour les couleurs le matin à 7h. Et vers 15h, je partais de la caserne et j'allais directement à Gerland pour m'entraîner.
Ça n'a pas été trop dur quand même de décider de rentrer en France, parce qu'il pouvait y avoir aussi le diplôme au bout, enfin il y avait tout un tas de choses qui allaient avec la bourse et Georgetown.
Ouais, alors la partie diplôme, la partie études, ça c'est surtout mes parents qui auraient, surtout ma mère, qui voulait vraiment que C'était un peu le deal quand je suis parti déjà en high school, c'était de pouvoir continuer mes études et puis décrocher une bourse et ensuite finir mon cursus, donc rester 4 ans et avoir et avoir mon diplôme à la fin. Donc c'est vrai que la décision, j'étais un peu embêté pour ma mère, mais en même temps j'étais parti aux États-Unis aussi pour jouer au basket. Et sur la deuxième saison où là je passe, en fait c'est un changement de poste qui me tue. J'étais deuxième arrière sur ma saison freshman, joue une vingtaine de minutes, ça c'est assez exceptionnel et rare dans une grosse université pour un freshman de jouer autant. Et l'année suivante, il recrute un deuxième arrière beaucoup plus physique que moi. Donc moi, je me décale logiquement au poste de meneur. Et là, je suis derrière Joey Brown, un starter indiscutable sur ses 4 années. Il avait joué avec Morning les années précédentes. Et c'était sa dernière année de senior, donc beaucoup de temps de jeu. Et moi, je l'ai grappillé des minutes.
Vous l'avez évoqué avant Georgetown. C'est vrai que c'est peut-être un peu moins connu. Vous êtes parti dès 15 ans, en fait, aux États-Unis.
Ouais, à 16 ans, exactement. Ouais, je suis parti, alors pas dans l'inconnu, parce que l'été précédent, avant de partir, j'étais allé avec Jacques Verneret, qui était mon entraîneur au Krebs de Voiron pendant une période, et qui, lui, avait des contacts aux États-Unis, et mon père. On a décidé d'aller faire des essais dans des high schools aux États-Unis parce que à cette époque, je rêvais de partir jouer aux États-Unis. J'avais la possibilité d'intégrer tous les centres de formation de Pro A, de Pro B. Je pouvais intégrer l'INSEP, mais moi, je voulais vivre mon rêve américain et partir aux États-Unis. Donc j'ai fait des essais dans 5-6 high school. Je parlais pas anglais, mais bon, dès qu'on en revient au basket, le langage, il est assez universel. Et en fait, toutes les high school m'ont proposé de venir dès l'année suivante. Et pour rassurer, je dirais, mes parents et ma mère, j'ai décidé d'aller dans une high school la plus dure, militaire, catholique et de garçon.
Ouais, donc c'est Saint John's hein, en l'occurrence.
Saint John's, voilà, qui a bon, on le voit maintenant. J'y suis retourné il y a pas longtemps. C'est Under Armour qui est le fondateur d'Under Armour, Kevin Plank, qui est de Saint John's aussi. Donc en tant qu'alumni, il donne à coups de millions de dollars. Donc la high school a beaucoup changé. Là, quand j'y suis retourné, a beaucoup changé, mais dur. Très dur. Je vivais chez mon entraîneur, donc il m'amenait à l'école le matin. Lui, il était à la salle, il préparait l'entraînement de l'après-midi. Je finissais ma journée scolaire en début d'après-midi et j'étais à la salle jusqu'à ce qu'il veuille bien me ramener à la maison. Donc je partais tôt le matin et je rentrais tard le soir avec le coach qui vit dans la chambre à côté de la tienne. Ouais, mais bon, c'est une expérience de vie et ça m'a fait grandir.
C'était apprentissage l'anglais et la vie US vitesse grand V quoi.
L'anglais, moi j'avais pris allemand en première langue, donc déjà pour faire le malin, hein, ça quand
c'était
les
alors.
Mecs qui prennent allemand en première langue à l'école, c'est pour impressionner les filles, donc c'est ce que j'ai fait. Donc je parlais pas anglais. Dès que je rentrais de l'entraînement, je me mettais devant la télé et je regardais des séries. Alors ce que j'avais fait quand même, c'était que je suis arrivé 2 mois avant le début de l'année scolaire.
D'accord.
Pour que mon oreille s'habitue à l'anglais, mais c'est vrai que c'est fatigant. C'est fatigant quand tu comprends pas la langue, tu dois en plus bosser à l'école, les entraînements, je revenais, c'était dur, c'était très dur.
Question, je fais une aparté, mais du coup vous parlez allemand couramment ou pas?
Italien.
Ah voilà, non mais Je demande
non,
par
non,
curiosité.
Non, mais Alain, je t'ai dit que l'allemand, c'était pour impressionner les filles.
Mais alors, je posais la question parce que j'ai fait allemand première langue aussi. Donc, vous n'êtes pas seul et je ne parle pas un mot d'allemand aujourd'hui.
Non, non, moi non plus. J'avais mon petit 10, 9,50 de moyenne et puis point à la ligne.
Je vois de quoi vous parlez. Vous êtes All-Américaine au lycée, champion d'État, vainqueur du concours à 3 points et vainqueur d'un concours de dunk, même de 2, non ?
Deux. J'ai gagné deux fois le concours de l'État de Washington. Donc voilà, les concours à 3 points, j'en ai gagné des dizaines. C'est vrai que bon, quand je suis arrivé, toute la partie hors basket, autour du basket, et dans ma vie, était plutôt difficile à 16 ans. Je vous rappelle quand même que c'était l'époque, il n'y avait pas FaceTime, il n'y avait pas tous ces moyens de communication. Moi, j'avais le budget pour appeler une fois dans la semaine mes parents. Souvent, en fin de semaine, j'appelais et on discutait rapidement parce que ça coûtait cher. Donc, j'étais un peu parti puisque j'étais au CERN de Voiron. Donc, je passais la semaine à Voiron et puis... le week-end chez mes parents. Mais là, j'étais parti. Là, j'étais loin, pas de contact. Les seuls contacts avec mes amis à Noël. Donc, dur, mais en même temps, je savais que j'étais en train de vivre quelque chose de nouveau. On n'avait pas de référence à l'époque par rapport à ça.
Mais c'est pour ça que je vous posais la question, c'est que c'était pas commun de partir dès cet âge-là quand on était en France à l'époque.
Non, personne ne partait comme ça. Donc moi, partir à 16 ans, je suis parti, j'ai chialé pendant des longues semaines où j'étais seul. On n'avait pas de référence, on n'avait pas d'autres joueurs qui faisaient la même chose et c'est vrai que je suis parti complètement dans l'inconnu, mais je suis parti pour le basket et au niveau du basket je me suis vite éclaté, j'ai vite été très très bon et ce qui après m'a permis, mes parents m'avaient dit on te donne 2 années parce que c'était quand même une école privée. Donc même si j'avais une partie des frais scolaires qui étaient pris en charge, il fallait mon hébergement. Mes parents n'avaient pas l'argent pour ça. Donc on avait une petite bourse au niveau de la high school, mais je payais le coach pour la chambre que je louais. Et ainsi de suite. Donc c'était 2 ans. Tu as 2 ans et après l'université, bien sûr. C'est pas possible de payer l'université.
Alors, je posais la question, oui, parce que ça coûte très très cher, on rappelle, aux États-Unis, donc il vaut mieux avoir une bourse dans la plupart des cas. Je posais la question sur le dunk, parce que, bon, entre nous, c'est vrai que vous faites 1m85 officiellement.
Ouais, maintenant, de 83, avec on se tasse bon, avec l'âge. Voilà.
Et donc, c'est vrai que ça m'a étonné, en fait, quand j'ai découvert le concours de dunk. Donc, c'était quoi votre spécial pour gagner à l'époque?
Alors, qu'est-ce que j'ai bien pu... Ouais, j'en ai fait un, c'était... pas si vous vous rappelez de Dee Brown,
ouais.
Quand il
qui
a
se
les pumps,
un petit peu, non
ouais, qui cache le cercle et qui avant de partir est au milieu du terrain et
il gonfle les chaussures,
et gonfle ses pumps, les Reebok pumps. Donc j'avais les Reebok pumps et puis bon après ce qui m'a bon là c'était le côté original, le côté clin d'œil, mais sinon c'est simplement que je faisais le concours face à des joueurs qui faisaient 2 mètres, 2,5 mètres et donc 3-6 contre la planche de main arrière, contre la planche de main, un peu le Jordan où il part de côté en partant sur la gauche et en prenant appel à l'extérieur de la raquette. Voilà, avec moins de grâce que Sa Majesté, mais voilà. Donc j'ai gagné une première année, et la deuxième année, pareil, en faisant pratiquement les mêmes dunks.
Moins de grâce, mais 13 cm de moins quand même, donc c'est pas mal.
Ouais, mais j'avais 1 mètre de détente verticale, c'est-à-dire vraiment sans élan, et incapable de dunker sur un pied. Ce qui est bizarre, mais par contre, dès que je pouvais placer les deux appuis, 1m10, 1m15.
Alors, Georgetown, dans la foulée, pourquoi Georgetown, qui est une fac réputée pour ses intérieurs, vous êtes plutôt connu pour être un shooter et donc un dunker à l'époque.
Pourquoi
vous avez pas mal d'offres en plus.
Ah ouais, mais alors les gens ne s'en rendent pas compte, mais j'ai eu des offres de. J'avais des piles à la, mais, chez mon coach, je recevais des lettres par paquet, UCLA, Connecticut, St. John's, qu'est-ce que j'ai eu, Syracuse, j'avais toutes les plus grosses universités, mais moi je voulais rester dans cet environnement, dans cette région de Washington et de Maryland. J'ai eu l'université de Maryland aussi, qui était à côté de chez mon coach. Mais Georgetown, c'était plus une passion. J'étais venu aux États-Unis donc faire des essais pour les high school, et j'avais acheté un blouson avec le bulldog de Georgetown. Et c'est vrai que mon coach savait que je voulais aller à Georgetown. Il le savait. Et tous les jours, je rentrais, je lui disais, est-ce que j'ai reçu une lettre de Georgetown? Non, non, non. Et un jour, je suis rentré, j'étais allé au coin de la rue, au 7-Eleven, ces magasins pour acheter un Slurpee, là, les trucs glacés, à pied. Et en revenant, je le vois qui m'attendait derrière la porte, quoi. Et qui me regarde, qui me dit, ouais, je sais pas si t'es assez physique, si mentalement tu vas tenir. Je dis, mais pourquoi, coach, pourquoi? Et là, il me sort la lettre avec l'insigne, le tampon de Georgetown. Et là, je me dis que voilà, ça y est, j'y suis presque. Il me dit, il va falloir aller visiter. Tu veux y aller? Tu veux visiter d'autres universités? Tu as le droit à 3 visites? Non.
Vous n'en avez fait qu'une.
J'ai fait que Georgetown.
Et alors, comment ça se passe? C'est l'instant cliché. Comment ça se passe, là, le recrutement d'un joueur
Bah
universitaire dans les années
écoute,
90?
t'arrives sur le campus, t'as un accueil particulier, des pom-pom girls, du staff, c'est-à-dire tous les étudiants qui s'occupent, qui ont des tâches différentes, mais avec l'équipe. Avec l'équipe, il y a un manager, celui qui s'occupe des serviettes, celui qui s'occupe de remplir les boissons, les Gatorade, là, tout ça. Et donc, eux, ils viennent te chercher, et puis comme à la télé, ils t'amènent dans les soirées. Tout le monde te fait comprendre que tu dois absolument signer pour la fac, que t'es le meilleur joueur du monde, que t'es le mec le plus beau. Et ça n'a pas manqué, j'ai fini la soirée, moi qui ne buvais, qui n'avais jamais touché une goutte d'alcool, j'ai dû boire 2, 3 verres. Je me suis réveillé le lendemain, réveillé par l'assistant coach. Parce qu'après, les joueurs s'occupent de toi aussi, ils te mettent bien, et c'est l'assistant coach qui me réveille, et j'étais dans les bras d'une fille. Je ne savais pas comment je l'avais rencontrée. Bon, et là, t'es pas bien. Quand c'est l'assistant coach de John Thompson qui vient te réveiller et que tu te lèves et qui voit bien que tu as fait la fête, soit t'es pas bien. Et là, je me suis dit, putain, j'ai tout foutu en l'air. Et puis en fait, non.
C'est business pour eux, quoi.
C'est le business pour eux. Il m'a juste dit, bon, c'est bon, tu viens chez nous. Et moi, bien sûr, oui. Oui, voilà, et voilà. Donc, j'ai même pas essayé de visiter. Alors que, comme tu l'as dit, c'était pas l'université qui me correspondait au niveau jeu. Moi, j'étais un joueur plutôt offensif, et une université réputée, mais pour son jeu intérieur, pour ses big men, Ewing, Mutombo, Mourning. Mais en même temps, voilà, c'est là que je voulais aller. Et il y avait aussi ce petit défi. J'y croyais, moi. Je me disais, pourquoi pas moi, quoi. Voilà, dans une université défensive, tout ça, ils ont besoin d'un shooter, pourquoi pas moi?
Ouais, il y avait une part de rêve, c'était vous
Ouais,
y
bien
aller là.
sûr, ouais. Alors, je rêvais. C'était même pas rêve par rapport à la NBA. La NBA, à l'époque, en 91, on n'en rêvait pas. Hein. C'était pas quelque chose d'accessible comme maintenant. Un mec qui joue en Pro B, qui a une grosse envergure et qui a un potentiel physique, il peut se retrouver en NBA ou faire des camps NBA. Non, non, à mon époque, la NBA, t'en rêvais pas, c'était un truc à la télé, quoi.
Et alors la vie tous les jours sur le campus, pareil, c'est l'instant cliché, mais comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un mec qui fait les examens pour vous et vous vous concentrez que sur le basket ou alors vous allez en cours un peu?
Non, on va en cours. À Georgetown, en plus, à mon époque, on avait même, quand on avait joué la veille et qu'on avait pris l'avion privé pour rentrer, on avait quelqu'un du staff, un assistant coach qui arrivait, qui savait exactement quel cours on avait. Et souvent, il venait à l'improviste, regarder dans l'amphithéâtre si on était bien en cours et tout ça. Donc non, c'était quelque chose qu'il prenait, en tout cas à mon époque, il prenait vraiment au sérieux. Donc il fallait avoir la moyenne. C'était pas John Thompson qui t'empêchait de t'entraîner, c'était ta moyenne et Mary Fenlon. Une petite dame, mais c'est la dame la plus puissante du monde.
C'est la CPE, quoi.
Ah ouais, mais qui, la confidente, la meilleure amie de Thompson. Et quand on regarde des images avec Morning et tout ça, et même je cherche des interviews de Pat Ewing, tout, ils vous parleront tous de Mary Fenlon, un petit bout de femme, mais qui était capable de te dire, toi, tu t'entraînes pas toute la semaine parce que tu as des cours à rattraper. Donc ça, c'est la partie études. Sinon, bah, c'est le rêve. C'est le rêve. On est installé par appartement, alors que souvent, les nouveaux étudiants sont dans des dorms. Mmh.
Ouais, dortoir, ouais.
Donc là, on était quatre par appartement. On a une partie de la cafétéria qui est que pour nous, avec des viandes qui n'ont pas la même tête que celles qui sont servies de l'autre côté pour les étudiants normaux. On était une méga star sur le campus, t'es une méga star. Moi, en plus, j'étais français, métis. Pourquoi je dis ça? C'est qu'on était quand même à une époque où moi, bon, j'ai eu une copine black. Ça passait. J'ai eu une copine blanche, ça passait pas. On était à l'époque où ça passait pas.
Moi, ah, toujours en 91, quoi.
Ouais. J'avais mes coéquipiers qui me disaient « Ah non, là tu peux pas, elle est blanche. » Et moi je leur disais « Mon père est blanc. Je suis autant blanc que noir. » Et bon, j'ai des situations où au restaurant avec ma copine... Des filles qui viennent, qui mettent un mot sur la table devant les yeux de ma copine pour dire t'as rien à faire avec un black, quoi.
Ah oui, c'est...
Ouais, donc on était encore dans cette période. Sinon, bah oui, côté star, côté revenir dans la nuit alors que t'as joué sur la télé nationale la veille, que t'as gagné, que tu rentres dans l'amphi et que t'as 300 étudiants et les profs qui se mettent debout et qui t'applaudissent, t'as la gueule enfarinée et qui t'applaudissent pour te féliciter parce que tout le monde a vu le match. Bon, ça.
C'est des souvenirs, ouais.
C'est souvenirs et ça. C'est monstrueux. Vous imaginez, moi je pars de Saint-Vallier et j'arrive à Georgetown.
Et être français, rien qu'être français à l'époque, ça devait déjà être exceptionnel aussi. Ça. Permis, entre guillemets, des traitements de faveur en bien ou en mal, je veux dire.
Non, justement, moi, je me faisais insulter par Thompson en permanence. Les Français, il n'y a pas de basket en France, t'es une tafiole, t'es pas dur. En permanence. Il n'y avait pas... Maintenant, t'es obligé de respecter la France, même t'es en NBA, ah bah oui. Avec le nombre de joueurs qui s'imposent, qui sont majeurs en NBA, mais à l'époque, il n'y en avait pas. Il y avait personne, donc pour eux, la France, c'était... Il n'y a pas de basket en France, ça n'existe pas. Donc c'est vrai que je me faisais plus chambrer par rapport à ça, et puis chambrer aussi, parce que mon anglais était...
Il y avait l'accent.
Ouais, avec l'accent français, alors ça marchait auprès des filles, bon, mais mes potes se foutaient de ma gueule en permanence.
Un petit mot sur la Kenner League que vous avez joué là-bas, notamment. C'est un match qui regroupe notamment pas mal d'anciens. Et là, vous avez joué avec Allen Iverson, par contre.
Ouais, contre.
Contre.
J'ai joué contre. C'était ma deuxième année. Pendant l'été, je refuse de... C'est pas que je refuse, c'est que j'ai pas le choix. Je dois rattraper des cours pour avoir la moyenne et pour pouvoir jouer. J'étais sélectionné en équipe de France pour faire l'Euro que l'équipe de que les juniors vont gagner avec Laurent Sierra, tout ça, j'étais sélectionné. Et je suis obligé de décliner l'invitation. Ça, d'ailleurs, ça m'a suivi pratiquement toute ma carrière après. Je décline l'invitation parce que je dois rattraper les cours. Et pendant l'été, aux États-Unis, à l'époque, bon, encore maintenant, mais on s'arrête jamais de jouer. La saison est terminée, il y a les ligues d'été, etc. Et la Kenner League, c'est la ligue de Georgetown. Et là, il y a tous les joueurs NBA qui sont passés par Georgetown, qui reviennent jouer et tout ça. Donc je fais cette Kenner League et en face, il y a des joueurs, des prospects de high school aussi qui sont invités à venir jouer. Il y a des joueurs de tout le pays qui viennent de Syracuse, d'autres universités pour faire des équipes. Donc moi, je suis dans l'équipe qui représente Georgetown et je termine meilleur marqueur et MVP de la Kenner League. Donc ça, vous imaginez, c'est après. Avant de prendre ma décision, c'est l'été, c'est avant le deuxième été. Donc, c'est alors oui, alors que je ne dise pas de bêtises, jouer freshman, c'est après mon année de freshman.
D'accord, c'est entre les deux, vos deux saisons là-bas.
Voilà, c'est entre mes deux saisons, donc avant qu'on arrive à l'histoire de l'armée. Et je joue, et je suis MVP, meilleur marqueur. Et en face de moi, il y a Iverson qui est un peu la star, déjà une star, tout le monde le connaît, qui joue face à moi. Je dois mettre 20, 25 points, 27 points. Lui, il en met 30. Il met des crosses. Bon, voilà, du Iverson déjà exceptionnel. Moi, c'était plus du shoot extérieur, mais voilà, la première confrontation avec Iverson, bon, je suis MVP.
Pas mal, ça fait un bon souvenir. Encore une fois, on regrettera qu'il ne vous ait pas remercié, qu'il n'ait pas fait allusion à ça, du coup.
Ouais, alors, petite anecdote, après avoir quitté Georgetown, quand je reviens l'été suivant, donc j'ai joué une saison à Besançon, j'y retourne l'été suivant et Iverson est encore là. Et là, j'arrive sur le campus et je vois Yaya Dia, mon pote, le Sénégalais, l'intérieur, qui arrive avec Iverson. Et je vois Allen Iverson qui vient vers moi et qui baisse les yeux et qui me serre la main comme un gamin, comme si j'étais une star et c'était une merde.
Un beau souvenir.
Il baisse la tête et donc je lui dis bonjour et je check Yaya. Et puis après, je suis avec lui tout seul et je lui dis mais pourquoi il. Il me dit, j'arrête pas de lui dire que depuis que t'es parti, t'étais le meilleur shooter qui serait jamais un meilleur shooter que toi. Donc, en fait, je pense simplement qu'il m'a pris pour Dieu, parce que mon pote avait gonflé l'histoire et pour lui, j'étais le meilleur shooter et j'étais un meilleur scoreur qu'Iverson.
Ah, c'est sympa.
Ouais.
On va faire un petit break, Eric, dans votre histoire pour faire un petit 5 majeur. C'est une tradition avec nos invités. Je vais vous demander le 5 majeur de vos coéquipiers. Si vous devez aller faire un basket un dimanche matin, qui vous prenez avec vous?
Laurent Sierra à la main. Et après, je pense que je vais prendre mes coéquipiers Deron Hayes,
Qui était à
Cholet.
Cholet, d'accord.
Je prendrai Paul Fortier, c'est Cholet. Je prendrai Cédric Miller. Il y a juste à la main où je mets Lolo parce que c'est mon pote et parce que j'ai pris énormément de plaisir les années où j'ai pu jouer avec lui. Quand tu es deuxième arrière et que tu as un passeur comme ça, tu te régales. Et sinon, mon équipe. Mon 5, mon Paul Fortier, Cédric Miller, Deron Hayes, coach Éric Girard de ma période, de ma meilleure saison en carrière avec Cholet l'année où je me pète le tendon d'Achille, mais où on se qualifie pour l'Euroleague, on termine troisième et derrière on gagne la Coupe de France.
Et votre 5 majeur, pardon, des meilleurs shooters de l'histoire. C'est un spécial shooter avec vous.
Ouais, shooter.
Vous n'êtes pas obligé d'avoir joué avec. C'est vraiment
ah oui, 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 oui,
ceux
oui,
qui vous
bon.
font plaisir.
obligé, même si c'est récent, Steph Curry, je mettrais Ray Allen contre qui j'ai joué. J'étais à Connecticut, moi
Ah
j'étais à
oui, c'est vrai.
Georgetown, donc Ray Allen. Après, je suis obligé parce que Larry Bird, moi, il m'a fasciné. C'est pas forcément un shooter, c'était plus un scoreur, un très bon joueur, mais son shoot au-dessus de la tête, ce qu'on court à 3 points, où il rate rien, je suis obligé. J'en ai donné combien? 3.
Trois, ouais, Bird, Curry et j'en ai oublié un, Ray Allen,
Après,
ouais.
Ray Allen, après du Reggie Miller pour sa clutchitude. Et puis, meilleur shooter, shooter, shooter. Il n'y en a pas tant que ça.
Déjà, on a un beau quatuor, hein. Déjà, on a.
Ouais, là c'est pas mal. Et après, pour aller, Klay Thompson.
Clay Thompson, on a deux Warriors dans les Splash Brothers, comme ça, dans le.
Bah écoute, il est de retour l'autre, hein.
C'est vrai, c'est vrai. Bon, ça fait un beau 5. On va revenir un peu à votre parcours. Vous l'avez dit, retour en France, donc c'est Besançon. Et une belle carrière en proie. Ça fait pas bizarre, déjà, première question. Washington-Besançon.
Si.
Avec tout le respect qu'on peut avoir pour Besançon, bien
Ouais,
sûr, je ne dis pas
non, non,
ça, c'est pas du tout pour déprécier,
mais.
mais voilà, vous passez de la capitale des États-Unis à Besançon.
Alors après, c'est pas la ville qui change, parce que finalement, moi, pendant mes années aux États-Unis, je l'ai passé à la salle, ou entre la salle et la maison, j'étais pas là-bas pour voyager, j'ai pas vu grand-chose, j'allais pas dans Washington pour me balader. J'ai pas vu grand-chose en 4 ans, à part les déplacements avec Georgetown, quand on allait à New York, à Syracuse, tout ça. Mais d'arriver, c'est surtout le choc du confort de travail, des moyens, des 5 ou 6 assistants coach. Quand tu arrives, tu rentres dans la salle, tu en as un qui s'occupe de toi, le kiné, les massages, les préparations. Ça c'est déjà voilà, tu as l'impression d'arriver dans un monde amateur alors que c'était déjà bien professionnel, Besançon. Et puis après il y a le public. Après il y a le public, mais c'est pas forcément le public qui m'a. Le nombre de gens qui. Bon, moindre en France, parce que les salles aux États-Unis sont. Le terrain il n'est pas forcément. Alors pour certaines, peut Les Connecticut, tout ça, ils ont leur propre salle. Mais nous, par exemple, avec Washington, on jouait dans la salle des Washington Bullets. Donc, on prenait le bus, on arrivait sur place. La salle faisait 17 000 places. Mais Besançon, en playoff, et jouer dans la salle des Bullets ou au Capitol Center, c'était voilà. Capitol Center, il y a plus d'ambiance, à Besançon. C'était le bordel avec les trompettes, tout ça, il y a du bruit. Donc c'est pas le public, c'est plutôt le voyager en bus, alors qu'on voyageait comme maintenant une grosse écurie, le Real, en Euroleague, tout ça, ça voyage en jet privé. Nous, on voyageait en Airbus, pas privé, mais on faisait rien en bus, on faisait tout en avion. Donc c'est ce côté un peu déjà en avance. Moi, j'arrivais de National 2, National 3 avec Saint-Vallier. C'est surtout les moyens, la propreté du parquet. Il n'y a pas de poussière. Il y a tout le temps un mec à venir nettoyer. Tout brille. Moi, j'étais habitué encore aux planches. Là, c'est plexi. Donc, c'est surtout là-dessus que ça m'a fait bizarre d'arriver à Besançon. Et après, dès que le basket, on a repris le basket. On a eu une saison galère qui se finit finalement en apothéose avec le titre, les playoffs face à Tours. En finale, on gagne les 2 premiers de 20 points, on perd les 2 autres de 20 points et on gagne de 20 points le dernier match à domicile. Non, dès que le basket a repris le dessus, et après, je me suis vite réhabitué à être dans une petite ville française.
Il y a le point d'orgue de votre carrière, vous avez un peu évoqué tout à l'heure, c'est Cholet.
Ouais, Cholet, pour la confiance qu'Éric Girard a mis en moi, c'est-à-dire il a cru en moi sur un poste où personne ne voulait prendre de risque, poste de meneur de jeu. Il avait le choix entre Laurent Sierra et moi, et il tente le coup Eric Micou, peut-être, parce que j'étais peut-être un peu moins cher aussi. Mais, et là, moi j'arrivais de Strasbourg, saison galère, termine dernier du championnat, on va descendre. Mon agent me dit, il y a Cholet qui est intéressé avec Eric Girard. Et là je me dis, ouais, c'est vraiment le meilleur endroit pour espérer rebondir. Et c'est ce qui s'est passé. Je réalise ma meilleure saison en carrière au poste de meneur. Voilà.
Et là, par contre, il y a donc cette déchirure du tendon d'Achille.
Et rupture.
Rupture, ouais.
En finale, on termine troisième. On fait une saison exceptionnelle. J'ai pas forcément de douleur avant. Bon, on sait qu'on. Moi, je suis présélectionné pour faire l'Euro qui avait lieu en France. On est qualifié pour l'Euroleague, donc ça c'est un truc monstrueux. Il me reste une année de contrat derrière. Je me dis, bon, c'est avec mon niveau, une année de contrat derrière. Et l'Euroleague qui arrive, ça va être parfait. Et au bout de, je sais pas, 10 minutes à Bercy, face contre Strasbourg, qui était en Pro B, je crois.
Là, je vous laisse, je vous fais confiance là-dessus.
Pro B ou Pro A. Pro B, il me semble, c'était descendu, mais bon, ils avaient réussi à se qualifier pour la finale. On gagne et moi, je me pète le tendon d'Achille. Donc, encore une fois, à un moment où je remonte, où je suis bien, je joue mon meilleur basket, il m'arrive une couille. Pour l'équipe de France, je rate la sélection et puis j'en ai pour 7 mois de rééducation juste avant de jouer une saison d'Euroleague, c'est chaud.
C'est un peu symbolique de votre carrière parce que en étudiant un peu, on voit que souvent il y a eu une bonne année et une plus difficile à chaque club en fait. À chaque fois que vous arrivez, il y a une année un peu plus dure, une autre meilleure et parfois des petits pépins comme ça.
Ouais, alors il y a les pépins physiques. Après, est-ce que ça résume pas un peu qui je suis? Je suis dans une sorte de confort. Où je prouve d'abord que je mérite d'être signé, et puis derrière, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que moi j'ai l'impression que le timing a toujours été le même. Il y a eu une bonne saison, c'est intéressant ça, une bonne saison, et derrière, une merde, ou. Ouais. Ça résume un peu ma carrière.
Un de vos grands moments, quand même, on va être un peu plus positif. Il y a un match à 37 points à Paris, à 11 sur 15 de loin.
Ouais, mais c'est positif, mais on perd le match.
Oui.
On perd le match sur mes lancers francs. C'est-à-dire qu'ils font faute sur un tir à 3 points. Je dois mettre les 3 lancers francs pour égaliser et aller en prolongation, et j'en mets 2.
Ah oui, donc souvenir un peu mitigé quand même. J'avais pas vu que c'était sur vos lancers francs. J'avais vu que le match était perdu, mais je pensais pas que c'était sur vos lancers francs.
Ouais, c'est moins que sur lancers francs. Alors après, oui, j'étais chaud comme rarement. En face, c'était Rohan. Ça défendait en zone. Ils ont pris l'option de rester en zone. Donc moi, je shootais. Je crois qu'en plus, je rate sur ce pourcentage, je rate les 2 premiers tirs.
D'accord.
C'est-à-dire qu'après, je rate plus.
Vous dites beaucoup, on a cru en moi au poste de meneur, au début vous étiez deuxième arrière, etc. En fait, vous étiez un meneur scoreur, vous étiez quasiment en avance,
ouais, mais ça,
sur
c'était
la tendance
pas,
actuelle.
C'était pas à la mode.
C'est ça, vous étiez en avance un peu sur le.
Maintenant, tous les meneurs sont scoreurs. Hier, des rookies comme Donovan Mitchell, c'est deuxième arrière, mais ça peut jouer meneur. Et moi, j'étais dans une équipe où je jouais mon jeu, j'arrivais à rester scoreur. Arrière-scoreur, parce qu'autour de moi, j'avais des joueurs qui partageaient la balle. Donc on le voit maintenant à NBA, c'est plus bizarre ou choquant d'avoir un meneur qui prend 10 tirs à 3 points. C'est le jeu qui a évolué. Et c'est vrai que moi, à l'époque, un meneur, c'était un mec, un Frédéric Fautou qui pénètre, un Sierra qui fait que des passes. Et moi, c'était pas mon jeu, je restais en périphérie et je prenais 80% de mes tirs derrière la ligne à 3 points. Donc ça, c'était peut-être pas rassurant pour certains coachs.
Les Bleus, on en a parlé un petit peu, il y a l'Euro dont vous êtes privé notamment à cause de cette déchirure du tendon d'Achille. C'est un rendez-vous manqué, il y a un petit regret par rapport aux Bleus, il y a eu cette histoire, comme vous le disiez au début,
l'histoire, mon histoire avec l'équipe de France a mal débuté, avec de décliner l'invitation, l'année où c'est... Jean-Pierre de Vincenzi qui est coach et qui sera ensuite DTN, sélectionneur national. Donc déjà, notre relation a commencé sur un « je viens pas ». Ensuite, il y a eu une tournée de l'équipe de France face à des équipes de la Big East. avec Rigaudeau, la grosse équipe de France qui était venue aux États-Unis. Donc elle joue contre Seton Hall, Connecticut, des équipes de la Big East, elles prennent des 30, des 40 points. Et on joue l'équipe de France avec Georgetown. Et là, les joueurs veulent venir me parler à la fin du match et j'ai pas le droit, j'ai pas le droit de répondre et je dois rentrer dans le vestiaire. Je suis un freshman et j'ai pas le droit de parler de l'université et tout ça. Et
Parce
ça,
qu'ils sont pros ou...
parce que c'est comme ça, c'était comme ça, c'était la règle à Georgetown. Quand sur ta première année, tu parles à personne.
D'accord.
Tu ne parles pas. Il estime, Coach Thompson estimait que tu connais pas l'université, que tu connais rien au basket, et que sur ta première année, tu te tais. Le match est terminé, tu rentres dans le vestiaire. Et là, j'avais des journalistes français qui voulaient venir m'interviewer, et par rapport même à l'équipe de France, et je peux pas leur répondre. Donc ça, c'est pas super bien vu. Et ensuite, voilà, cette blessure au tendon d'Achille qui m'empêche, alors que j'étais présélectionné, que je pense que je méritais l'équipe de France. Il y a toujours eu quelque chose, donc ça c'est finalement les seules sélections que j'ai eues en équipe de France, ils n'avaient pas le choix
Ouais.
que de me prendre. Je faisais des saisons à 15 points de moyenne avec des gros pourcentages. Il y a un moment où ils étaient obligés de me prendre. Par contre, c'est pas pour ça que j'ai eu du temps de jeu ou l'Euro avec Tony en Turquie. J'ai quand même Alain Weiss qui me dit, tiens-toi prêt, je te fais jouer demain. On a besoin d'un shooter. Le lendemain, je me tiens prêt pour jouer, je joue pas. Il vient me voir, il me dit, excuse-moi, j'ai pas pu te mettre profiter, mais j'ai besoin de toi, voilà, tiens-toi vraiment prêt. Bon, je me suis tenu prêt pendant 4-5 matchs, et puis après j'ai compris que bon, qu'on se foutait un peu de ma gueule.
Alors, on va passer sur un autre aspect de votre vie. Je suis obligé d'y toucher un petit peu parce que ça va
Ouais.
avec votre réputation. Vous savez déjà de quoi je veux parler parce que je vois votre
Non, non, non,
petit
pas du
sourire.
tout. Non, 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 pas du
Non,
tout.
mais on parlait de la déchirure du tendon d'Achille et votre corps, justement, a subi pas mal de choses. Vous l'avez dit, il y a pas eu pas mal de petits pépins. Et vous avez aussi une réputation quand même de fêtard.
Ouais.
À quel moment vous vous êtes assagi au milieu de tout ça?
Jamais.
Jamais.
Non, non, non. Alors maintenant, avant cette blessure au tendon d'Achille, je n'ai aucun signe avant-coureur. J'ai pas de douleur, j'ai pas de tendinite, rien du tout. Je me pète le tendon d'Achille comme ça. Je travaille comme un dingue pour revenir, avec la pression du club pour revenir un peu plus vite que prévu. Et donc je reviens à 6 mois et j'ai pris 10 kilos de muscle. Parce que je bosse en permanence dans la Méret. Ils avaient installé le préparateur physique, me faisait bosser, donc j'assistais aux entraînements. Donc voilà. Je reprends plus tôt. Donc je fais une saison d'Euroligue à prendre anti-inflammatoire matin, midi et soir parce que le matin, je ne peux pas poser mon pied par terre. Les saisons s'enchaînent, j'arrive à Paris, je fais une saison encore une fois. Bon, c'est vrai que je dormais pas beaucoup la nuit, mais j'ai toujours des grosses douleurs anti-inflammatoires pendant encore 3 ans. Et j'arrive à Dijon, première saison se passe plutôt correctement, mais je suis sous anti-inflammatoire matin, midi et soir pour la douleur. J'ai la douleur. Et là, c'est l'autre jambe puisque j'ai compensé pendant toute cette période, c'est l'autre jambe qui me fait mal. Donc je prends la décision avec Jacques et puis Yann Boisson, manager général, de me faire opérer, au lieu de continuer pour essayer de passer à autre chose. Et donc là, je perds encore 7 mois. Donc ce tendon, j'ai jamais eu de problème d'entorse, jamais eu de problème de genou, jamais eu de problème de dos. Maintenant, c'est vrai qu'un tendon d'Achille et ensuite un deuxième. C'est physiquement compliqué, alors que maintenant on opère pratiquement sans ouvrir. Moi, j'ai une balafre de 20 cm de chaque côté. Donc oui, ma réputation de mec qui aime sortir, je suis jamais sorti les veilles de match. J'ai cette réputation parce que je l'accepte et j'accepte qu'on en parle. Je suis loin d'être le seul, bon, sans dire, sans citer qui que ce soit, avoir profité un peu. Et puis en même temps, je me dis, bon, j'ai 45 ans, j'en ai profité pendant mes meilleures années. À 20, tu reviens à 20 ans, 21 ans des États-Unis où t'en as chié, où t'as tout donné, t'es parti d'un petit club, tu sors avec 2 années à Georgetown, tu reviens, tu signes ton contrat pro. J'ai commencé à faire un peu la fête quand je suis revenu, en fait, parce que toute cette période de là, de 15 ans jusqu'à ce que je gagne, commence à gagner ma vie, j'ai pas bougé une oreille.
Et blague à part sur les sorties, etc. Mais vous le disiez, c'est quand même très très exigeant physiquement le sport de haut niveau. Vous connaissez finalement beaucoup de joueurs qui en sont sortis sans un genou qui grince, une douleur à la hanche.
Non. On le voit maintenant. Moi, je trouve que je vieillis plutôt pas mal, à part la surcharge pondérale qu'il faut que je fasse attention. Et encore, j'en rigole, on en plaisante, mais ça va.
Ça va, oui.
Ça va. Après. Mon corps, j'en ai quand même mis plein la gueule pendant toutes ces années, et je trouve qu'il est une sorte de machine, quoi, parce que j'ai plus de problèmes de dos, j'ai mes tendons finalement ne font, je prends plus d'anti-inflammatoire, j'ai pas une hanche en plastique comme Jacques. Ça va bien, mais c'est vrai que je l'ai pas économisé sans doute sur les temps de repos, sur ce choix de profiter de la vie autant que du basket.
Une deuxième petite aparté dans cette émission, Eric, on va rentrer dans un instant un peu spécial, c'est l'instant quatrième dimension.
Ouh.
Nous arrivons dans une dimension où le basket n'existe pas.
Ouais, mais c'est facile.
Qu'est-ce que vous faites de votre vie ?
Je suis pilote de Formule 1.
Pilote de F1 ?
Pilote de F1 ou pilote d'avion de chasse. Mais pilote de F1, pilote. Ma passion depuis toujours pour les automobiles, les belles voitures, les voitures puissantes, j'ai assisté dans ma région là-bas, dans la Drôme, j'allais voir depuis tout petit, j'allais voir le rallye Monte Carlo. Donc tout ce qui a trait à la mécanique et tout ça, voilà, c'est. On en parlait dans la voiture pour venir ici justement. Voilà, moi j'aimerais bien avoir cette capacité à pouvoir travailler une carrosserie pour acheter une voiture, une épave, la retaper, remonter une voiture de collection. C'est ma vraie passion.
Il y a une voiture de collection en particulier que vous fait rêver ?
Non, là j'ai une Toyota Auris.
Toyota, c'est pas Auris. Tout à fait une Ferrari.
Non, c'est
mais
pas
c'est
tout cool, à fait.
C'est une hybride ou pas ?
Non, ma femme a gardé l'hybride et elle m'a donné la normale. Mais j'ai eu de très belles voitures, pas pour faire le malin, mais vraiment parce que je pouvais à l'époque et parce que j'adorais ça. Des Porsche, des Ferrari, des Mercedes, des BM, on en parlait, j'ai dû avoir, je sais pas, une quarantaine de voitures différentes. J'adore les voitures, pas pour faire le malin, mais vraiment parce que je prendre la route dans une belle voiture, je peux traverser la France, partir sur un coup de tête et je vais préférer voyager en voiture que prendre l'avion ou le train. Donc pilote ou je sais pas, mécanicien de pour les voitures de course ou
dans la mécanique. Ça marche. On va parler de l'après-carrière justement. Est-ce que c'était dur de se trouver un but quand on arrête, qu'on a fait que ça depuis qu'on a 15 ans, voire avant, hein, puisque vous avez commencé avant pour pouvoir partir à St. John's. Vous avez fini à Évreux en tant que vétéran un petit peu dans une équipe qui était en Pro B. Et puis après, comment ça se passe quand on arrête comme ça ?
C'est la galère. C'est la galère. Moi, j'avais acheté une maison, je me laissais aller, je profitais des ACEDIC jusqu'au jour où j'ai regardé mes droits restants et je me suis Putain, dépêche-toi de trouver quelque chose parce que, ben parce que tu. C'est tellement. On est tellement cocooné, tout le monde s'occupe de tout pour vous et on a tendance, quand on joue au basket, à toujours repousser l'échéance, à se dire ouais, bon, il me reste encore 5 ans, il faut que je commence à y réfléchir. 4 ans plus tard, ouais, il faudrait que je commence à y réfléchir. Alors, il y en a qui sont très forts pour ça. J'ai mon pote Jérôme Monet, qui était à Évreux avec moi, on était en chambre, les deux vétérans en chambre sur les déplacements, et lui il me disait, bah, j'ai acheté un tracteur, je m'associe à mon frère et on va aller couper des arbres dans la forêt, voilà, je suis en train de passer mon diplôme de jardinier. Le mec, il savait exactement ce qu'il voulait faire et ce qu'il faisait kiffer après le basket. Moi, j'en avais aucune idée. Aucune idée. J'ai juste décidé de me bouger un peu les fesses quand j'ai senti que financièrement, ça allait être compliqué, de me bouger un peu les fesses et de remontrer mon visage. Parce que après avoir arrêté le basket, j'ai repris un peu les études à la Sorbonne. Mais c'était pas dans un but précis, mais simplement croiser les gens, reprendre un peu un rythme, pas rester à la maison, tendre sa pelouse, mais aller serrer des mains, rencontrer des gens, discuter, tout ça. Mais après, savoir ce que je voulais faire, non, j'en ai jamais eu aucune idée.
Et c'était quoi la formation à la Sorbonne ?
C'était un DU en droit du sport.
D'accord, donc il y avait une volonté de rester dans le sport quand même.
Plutôt, oui, ouais. Plutôt. Je savais que c'était dans le sport. Alors moi, on m'a demandé si j'avais passé mes diplômes d'entraîneur. J'ai jamais voulu les passer. Donc déjà, ça enlève une grosse partie des solutions possibles en tant qu'entraîneur, manager général ou quoi que ce soit. Donc j'ai arrêté en plus sur un coup de tête parce que j'ai arrêté parce que mon président ne voulait pas vraiment me laisser aller faire ma formation. Tant que j'étais sous contrat pro. Et moi, je lui ai dit, je suis rentré à la maison, j'ai dit j'arrête.
Oui, donc en plus, c'était net.
C'était net, ma femme n'a pas compris, j'ai dit j'arrête, il ne veut pas me laisser faire ma formation tranquillement. Il me dit, mais il y a moyen de discuter, de prendre ton temps. J'étais en parfaite forme physique, hein, à 35 ans, j'étais encore dans le 5 majeur. Avec des petites statistiques, mais bien physiquement, avec un vrai rôle de capitaine. Et j'ai arrêté, je suis rentré, j'ai dit stop. Et après, tu te poses des questions. J'ai été sauvé par ma chaîne sport.
Oui, alors voilà, j'allais y venir, vous vous retrouvez au commentaire finalement à ma chaîne sport.
Ouais.
Comment ça se passe? Comment vous vous retrouvez là?
Pour une fois, un coup de chance, au bon endroit, au bon moment. On m'avait dit que ma chaîne sport cherchait peut-être un consultant. Je me renseigne, je prends contact. J'ai Jean-Yves Dermain au téléphone qui me dit qui est le rédacteur en chef, qui me dit j'ai déjà un consultant, j'ai Crawford Palmer. Je dis, bon, ben, garde mon CV. Oui, oui, Eric, on te connaît, il n'y a pas de souci. Je dis, bon, ben, bon, une prochaine. Et il m'appelle 4-5 jours après pour me dire Crawford est malade. Est-ce que je peux remplacer Crawford? Donc, je remplace Crawford et finalement, ça se passe plutôt bien, même si sur mon premier match, j'arrive avec toutes les franchises, les rosters, toutes les franchises imprimées, j'arrive avec 200 ou 300 pages imprimées. Et donc Jean-Yves Dermain, rédacteur en chef, me dit finalement on vous garde tous les deux. Et j'ai commencé à commenter comme ça, sans réellement gagner ma vie, parce que il y avait peu de matchs, le budget de la chaîne était limité.
On rappelle, vous êtes payé au match, hein, dans ces cas-là.
Payé au match, ouais. Et le budget était quand même limité. Et à un moment, j'ai voulu arrêter parce qu'il fallait que je gagne un peu mieux ma vie pour vivre dans la région, en région parisienne. Et Jean-Yves Dermain, que je remercierai de tout mon cœur tout le temps, me dit « Fais un effort, reste. tu continues à progresser, en profites-en pour travailler, corriger tes petits défauts, et comme ça, un jour, s'il y a une autre chaîne concurrente, ou si on n'a plus les droits, est intéressé, ben, tu auras déjà ce bagage technique. Et donc, je décide de l'écouter, de me serrer la ceinture, de l'écouter. Et puis après, la suite, c'est beIN Sports.
Ça vous a vite plu, les commentaires? Vous êtes vite trouvé à votre
ouais,
place?
Ouais, à ma place, non. Bon, il a fallu que je fasse un peu attention à ma façon de parler, que je travaille sur, même si j'en ai encore, on a tous des tics de langage. Après, ma façon de préparer les matchs. J'étais plus trop sur la NBA quand j'ai commencé avec ma chaîne sport, donc il a fallu que je me documente un maximum, que je me remette dans ce championnat, et puis après ça peut qu'être plaisant en tant qu'ancien sportif de commenter des matchs de basket, quoi, pour revivre.
Et aujourd'hui, donc beIN Sport, pareil, comment ça s'est passé l'arrivée sur beIN?
C'est Xavier Vaution qui m'a appelé, c'était lors du lancement de la chaîne. beIN diffusait les championnats du monde à Londres.
Les JO même directement.
Les JO,
ouais.
Les JO, pardon.
Ouais, c'est 2012. Hein.
En 2012, les JO, et il m'appelle. J'étais avec ma fille et ma femme. Je me rappellerai toujours, j'étais à Disney, et il me dit: est-ce que Eric, tu veux venir commenter un match là dans une heure? Je lui dis: écoute, dans une heure, je suis à Disney, je peux pas. Mais par contre, ben, s'il y en a d'autres, il me dit: ben, il y en a un autre 3 heures après. Et là, je lui dis: ben, j'y suis. Donc, je laisse ma femme avec la voiture, je prends les transports en commun. Et je suis arrivé, j'ai retrouvé Charles Bietri, que je connaissais en tant que dirigeant, qui me connaissait aussi en tant que joueur, lui, puisqu'il était dirigeant du PSG Basket. Et donc il me dit: bon ben voilà, tu vas commenter un match. J'en ai commenté un, deux, trois, et puis finalement j'ai commenté tout le tournoi olympique. Et ne sachant pas si j'allais rester à beIN ou pas, mais j'ai quand même glissé le petit mot: est-ce que si vous avez, parce que beIN n'avait pas les droits encore, c'était pas officiel, si vous avez les droits NBA, est-ce que vous allez compter sur moi? Et là Xavier m'a dit: oui. Tu feras partie de l'équipe si on a les droits.
Et aujourd'hui, vous faites partie donc de l'équipe avec Xavier Vaution, avec Rémi Reverchon, avec Jacques Monclar. Vous disiez que vous avez retrouvé Charles Bietri. Vous avez retrouvé aussi Jacques Monclar, qui a été votre coach à une époque.
Ouais,
c'est quoi la différence entre Jacques Monclar, le coach, et Jacques Monclar, le consultant, du coup?
Il est plus calme. Il est plus calme. Non, Jacques, il a eu... moi, je l'ai eu comme coach, où il est très vocal, il en demande beaucoup, même pour lui. Il est bien là, il est bien, il a bonne mine, il a plus ces soucis qu'on peut avoir quand on est entraîneur, cette pression. La pression, elle est complètement différente. Et non, c'est pas du tout le même Jacques que quand il était coach.
Vous qui êtes un shooter, la physionomie actuelle de la NBA, justement, pour revenir à ce que vous commentez, ça doit vous plaire actuellement?
Ah bah oui, maintenant, le tout 3 points, ça, c'est pas ce qui m'attire le plus. J'aime bien le beau jeu, j'aime bien le jeu collectif. Et après, les tirs extérieurs sont importants. Maintenant, quand ça abuse du tir à 3 points et que ça joue que dans des duels de 1 contre 1... Ça me gave.
Comment vous osez parler de Russell Westbrook comme ça en sous-texte?
Non, mais alors moi, non, alors ne faites pas dire ce que j'ai pas dit.
Non,
Russell Westbrook, ses performances sont ahurissantes. Maintenant, il faut qu'il gagne.
C'est vrai, c'est toujours l'essentiel.
Voilà, et je préfère. La série est intéressante. La série. Philly, Boston, où d'un côté on a j'aime bien quand il y a des vrais coachs, quand il y a des systèmes de jeu mis en place, quand ça joue pas trop en isolation, ce que fait Utah en ce moment, à jouer avec que des revanchards, c'est que des joueurs Ricky Rubio, la saison il est jeté pratiquement de Minnesota. Corey Crow Jay Crowder,
Ouais.
c'est pareil. Joe Ingles, c'est Blanc-Bec, gaucher avec un shoot bizarre mais adroit. C'est un peu que des. Alec Burks, c'est que des. Et les mecs, ils arrivent à taper Houston en jouant collectif. Alors après, il y a du shoot à 3 points, il y a un Donovan Mitchell qui est extraordinaire. Mais voilà, moi je me reconnais plus dans ce jeu que dans l'orgie de tir à 3 points.
Question au shooter Eric Micou, et
Ouais.
attention, elle est très sérieuse parce que je m'adresse au héros de la cassette titre Apprendre le
Le
basket avec
basket.
Eric Micou, qui promet, je cite, ouvrez les guillemets, des progrès décisifs dans tous les compartiments du jeu. Donc j'attends des conseils très concrets, Eric. Comment on devient un bon shooter?
Mais il faut acheter la cassette.
Alors je précise, j'aurais peut-être pas le dire parce que je sais pas si la cassette est encore en vente, mais elle est sur YouTube. Moi je l'ai regardée sur
Ouais,
YouTube.
elle est sur YouTube. D'ailleurs, je faisais mon garage avant-hier et pour donner des trucs à ma mère pour la brocante et j'ai trouvé cette fameuse. J'ai un
C'est
exemplaire.
collector, hein.
Il doit y en a. Voilà, on parlait de vieilles caisses, de vieilles voitures, collector, de les retaper, tout ça. Ben, cette cassette, si vous l'avez, gardez-la.
Ah oui.
Gardez-la parce qu'elle va peut-être prendre de la valeur. Sur la cassette. Ouais, je monte des exercices de gestuelle. Voilà quoi. C'est une cassette. D'ailleurs, j'attends toujours
Les royalties.
les royalties. Ça doit maintenant représenter bon, une centaine d'euros. Hein. Mais non, on m'avait proposé ce projet et puis on a fait ça. Je jouais à Strasbourg à l'époque. On me voit shooter dans la salle annexe. Et puis des images de la SIG.
Et le shoot, ça a été naturel pour vous?
Oui, la gestuelle. La gestuelle, j'ai toujours eu le coup de bien rentrer, le fouetter du poignet. Après, on peut avoir la plus belle gestuelle du monde si on ne s'entraîne pas. Moi, bon, s'il y a une chose sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, c'est mon volume de shoot. Je shoot, c'est ce que je dis même aux gamins. Le plus important, c'est pas de corriger le geste, c'est le volume de tir. Il faut shooter beaucoup. Tous les plus grands shooters, les Petrovic qui mettaient 503 points avant de finir l'entraînement, 503 points, allez-y, mettez 503 points, vous allez voir.
Ça fait des sacrées courbatures le lendemain au niveau des épaules.
Exactement, et ça tous les jours.
Au niveau, d'ailleurs, vous avez joué beaucoup au tennis, si j'ai bien lu, avant.
Ouais.
Est-ce que ça vous a aidé, d'après vous? Parce qu'il y a ce côté reproduire une mécanique au service, notamment, très régulière et qui doit être quasiment la même à chaque fois.
Je suis pas sûr. Maintenant, il y a une chose est sûre, c'est que j'étais meilleur au tennis qu'au basket, jeune. À l'âge de 14 ans, j'étais 15-3, 15-2, sans faire pratiquement, en faisant aucun tournoi.
D'accord.
Et donc, il faut faire des tournois pour monter. Donc, j'aurais facilement pu monter plus haut. Mais le problème, c'est que c'est un sport individuel qui coûte cher et que mes parents ne pouvaient pas suivre. Donc, finalement, j'ai rejoint mes potes et j'ai joué au basket. Après, est-ce que ma détente ne vient pas aussi de la gymnastique? J'ai commencé par la gymnastique. Et puis, je me suis vite senti mal dans ces shorts moulants. Avec comment on appelle ça, ces
Ah,
chaussures avec
oui,
l'élastique,
les ballerines, là.
avec les
Ouais.
ballerines, ouais, donc j'ai vite arrêté.
Ça a donné des cauchemars à tout le monde au collège, ça, de toute
Ouais,
façon.
sans doute, ouais. Sans doute. Non, mais j'ai eu vite des qualités. C'est mes qualités athlétiques qui ont vite fait la différence. Je crois que j'ai dunké pour la première fois. Je faisais 1,73 m et je voulais dunker avant Michael Jordan. C'est-à-dire, Jordan, je crois que ça, il a mis son premier dunk à 14 ans, et moi, j'ai dunké avant 14 ans.
D'accord, ah oui, c'était l'objectif. Vous aviez entendu
Ouais,
qu'il avait dunké
j'avais
à 14 ans.
entendu 14 ans, et deux pieds, une main, avant 14 ans, à 13 ans et quelques jours. Voilà, c'était mon but.
À mon avis, ça va être plus avec les filles que l'allemand. On en parlait tout à l'heure, mais. Non?
Non, non.
Non, l'allemand, vraiment, je sais pas comment vous avez fait. Vous aviez
Non.
des poèmes en allemand ou des trucs comme ça?
Ouais, non, mais c'était. Bon, en fait, pour revenir à l'allemand, c'est mon père qui avait vécu en Allemagne et qui me disait, je prends l'allemand, je vais t'aider.
Ah, d'accord.
Je pourrais t'aider pour faire tes devoirs. Et puis rien du tout.
D'accord.
Rien du tout.
On va terminer, Eric, avec un petit mot sur votre équipe de cœur, les Bulls. Est-ce que c'est pas trop dur en ce moment? Et comment vous reconstruisez cette équipe? Je vous donne les clés, vous êtes le GM, qu'est-ce que vous faites?
je garde Lavine, je garde Markkanen et je vire tout le reste.
C'est fait.
On ne sait pas où ils vont. On ne sait pas où ils vont au niveau du coaching, au niveau du staff de la franchise, et c'est ce qui est désolant. Maintenant, je parle des Bulls parce que les Bulls m'ont fait aimer le basket. Michael Jordan m'a fait aimer le basket à l'époque. C'est à cause de lui que je me suis mis au basket et que j'ai apprécié y jouer. Maintenant, je suis pas à fond derrière la franchise. Je préfère attendre un peu avant de me réimpliquer avec les Bulls le temps qu'ils se remettent d'aplomb, mais je pense que ça va prendre quelques années.
On vous remercie, Eric Micou, d'avoir été avec nous pour 48.
Merci, Alain.
On vous retrouve sur beIN Sport, donc très régulièrement aux commentaires et dans NBA Extra avec Marie Patrux, d'ailleurs, qu'on avait eu ici même dans 48.
Ouais.
On vous invite à réécouter aussi l'émission avec Marie Patrux. C'est intemporel, de toute façon, 48. C'est du basket et des histoires. On vous remercie encore de nous avoir suivis. On vous rappelle que si vous aimez l'émission, vous pouvez l'aider sur Tipeee. On remercie d'ailleurs nos derniers tipeurs, Pierre-Marie, Martin Bribard, Mister Burr, Florian Guérin, Damien Clavier, Antoine Lolol, Carolo, Lichizan et Stockton 69. Merci encore une fois, Eric. On vous souhaite plein de bonnes choses.
Merci, Alain. Merci, ça faisait plaisir de se revoir. On s'est croisés quand même pas mal de fois.
Mais c'est ça, sur le plateau de... Allez, on va faire un petit interlude pour finir. Perso, c'est vrai qu'on s'est croisés à ma chaîne sport.
À ma chaîne sport, bien sûr.
Puisque j'ai eu le plaisir de diriger, je crois que c'était une soirée NCAA où il y avait à la fois vous et Crawford Palmer.
Ouais.
Et puis moi, je vous ai vu la toute première fois, mais ça, vous ne le saviez pas à l'époque, mais dans les tribunes à Évreux.
À Évreux.
Puisque j'étais jeune journaliste, c'était mon premier boulot dans une radio locale.
Ça me rajeunit pas trop.
Et bah c'était
j'ai l'impression d'être une vieille.
Alors vous avez arrêté en 2007 ou 2008? Non, 2008.
2008.
Et c'est ça. Donc j'ai vu votre dernier match à Évreux. Moi j'ai emménagé à Évreux pour travailler sur une radio locale en février 2008 et j'ai vu la fin de votre saison.
Mais vous savez que personne ne savait que c'était mon dernier match. Puisque
non, on ne savait pas.
Voilà.
Mais je venais de débarquer et j'ai découvert Évreux et la Pro B et j'ai vu votre dernier match à Évreux.
J'avais été nul.
Ah non, je regarde pas le son. Mais c'est pour ça que je disais rôle de vétéran à Évreux, parce qu'on le ressentait quand même que vous aviez ce rôle-là de vétéran et que c'était.
Ouais,
voilà,
j'ai toujours d'ailleurs Rémi Valin. C'est vraiment un ami. C'est moi qui l'avais conseillé quand il hésitait à prendre le poste à Évreux. Il disait qu'il était trop jeune. Je lui ai dit vas-y, ça peut pas être pire. Vas-y, prends les choses en main. Et on est toujours en contact avec Rémi. C'est vraiment mon ami et c'était quand j'étais en Italie, je voulais jouer absolument en Pro A, revenir en Pro A, prouver que j'étais capable de le faire, et Évreux m'a proposé un contrat. J'y suis allé sur la pointe des pieds en pensant que j'allais retourner en Pro A, et finalement je me suis éclaté, j'ai pas eu les contacts que je voulais en Pro A et je me suis éclaté, j'ai prolongé pour finalement rester 3 ans et demi à Évreux, et c'était très cool.
Et vous parliez d'ambiance tout à l'heure, à Évreux, c'est quand même
sacré.
Et
voilà, ambiance. Avec des vrais supporters qui voyagent, une salle qui a une petite histoire quand même, et qui est super agréable quand on y joue.
Là, c'est la note perso, mais moi je vous dis, quand j'ai découvert et que j'ai fait cette fin de saison où vous jouez vos derniers matchs, ayant pas grandi dans un coin où il y avait la Pro A ou la Pro B, j'ai découvert les ambiances et j'avais été assez scotché
par le bruit
dans cette salle. C'était impressionnant.
Les Mauriciens, là, ils sont un peu dingos.
Voilà, on salue en tout cas
nos
auditeurs et Mauriciens. Je suis content de pouvoir parler un peu d'Évreux. Ça a été un passage
enrichissant. J'ai été super bien accueilli. Et même comme j'étais beaucoup moins régulier, je faisais des matchs un peu pourris et tout ça, j'ai toujours eu le public avec moi qui me considérait comme le vétéran et je me suis éclaté à Évreux.
Merci encore Eric Micou.
Merci.
À très bientôt sur 48. À vous qui nous écoutez, merci encore Eric Micou. Très bonne fin de saison NBA à vous. Ciao, ciao.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.